12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Un opéra adapté d'un film et un disque de chant lyrique dédié à Wagner. Voilà le programme de ce débat critique consacré aujourd'hui à la musique classique. Enregistré à l'Opéra Royal de Suède en novembre dernier, Mélancolia est disponible sur la plateforme Arte Concert jusqu'au 29 juin prochain. Opéra donc adapté du film de Lars von Trier et signé du compositeur Michael Carlsson. Nous parlerons ensuite d'un disque, qui consacre Wagner et c'est réalisé par le baryton américain Michael Spires, il s'appelle In the Shadow avec les talents lyriques et Christophe Rousset à la direction musicale, disque disponible chez Warner Classic Erato. Pour débattre de tout cela, j'accueille Charles Ardenne. Bonjour Charles.
Bonjour.
Vous êtes critique musical, directeur des contenus d'Olyrics, le portail francophone de référence dédié à l'art lyrique. Face à vous, Christophe Candoni. Christophe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste culturel sur Scène-Web. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture. On commence donc par Mélancolia de Michael Carlsson, adapté donc du film de Lars von Trier, et c'est disponible sur Arte Concert. Et dont on va écouter un extrait normalement pour débuter cette émission, si la technique et la machine veut bien nous faire ce plaisir. Voici donc l'extrait. Ceux qui ont aimé le film ne devraient pas être perdus. Quant à l'intrigue de cet opéra, nous assistons toujours au mariage de Justine et de Michael. Tiens, encore un. Justine est d'ailleurs d'abord seule sur scène, regardant vers le ciel, quand soudain, elle voit une étoile rouge dans le ciel. Le chœur, qui sont ici les invités, apparaissent ailleurs, alors derrière elle, et observe cette planète rouge avec des lunettes. Vous savez, ces lunettes comme pour regarder une éclipse. L'ambiance, vous l'entendez, elle est assez angoissante à ce moment-là. Il faut dire que cette planète Mélancolia se rapproche dangereusement de la Terre. Voilà pour cette scène d'ouverture. Rassurez-vous, comme dans le film, le couple est en retard à son propre mariage et la tranquillité de Justine donc clairement mise en cause. Et pour l'apaiser, eh bien c'est Michael, son époux, qui va déployer des trésors d'amour, tandis que, et là l'intrigue se corse, Gabi, sa mère, aggrave cette détresse. C'est donc le compositeur suédois Michael Carlsson qui adapte le film du Danois Lars von Trier, enregistré en novembre dernier à l'Opéra National de Suède, avec l'orchestre et le chœur national. Charles Ardenne, vous avez tout regardé sur Arte Concert. Qu'en avez-vous pensé ?
J'ai été fasciné par cette proposition qui m'a vraiment, vraiment plu, vraiment, vraiment touché, vraiment ému, vraiment. J'ai vraiment été immergé dans cette pleine ambiance, dans cet univers. On parle régulièrement des défis qu'il peut y avoir à adapter des œuvres d'un média vers un autre, toutes les frustrations qu'on a quand on va voir un film adapté d'un roman, ou alors quand on va voir, là en l'occurrence, un opéra adapté d'un film. Et puis ça nous permet aussi de repenser à toute l'histoire même de notre art, de notre culture, comment on exprime des choses, des émotions, des sentiments, des passions à travers différents arts, différents médiums. Évidemment, nous qui sommes fans absolus d'opéra, on va défendre cet art comme étant, comme le disait Wagner d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, l'art total, Gesamtkunstwerk, l'art qui peut allier la musique, le théâtre, la scénographie, le jeu d'acteur, etc. etc. Il faut dire que avec une telle adaptation, je trouve que on creuse vraiment un sillon, ce sillon de la mélancolie, ce sillon de l'intime psychologie de l'héroïne, du personnage principal, de ses liens avec les autres qui sont passionnants. Vous avez parlé de la mère avec une performance absolument fantastique d'Anne-Sophie von Otter, qui donc est la Charlotte Rampling de l'opéra, hein,
c'est ça.
Charlotte Rampling qui incarne le rôle dans le film. Voilà, tous ces univers sont là. Il faut dire aussi que l'œuvre de Lars von Trier est déjà très opératique, à l'origine même de son esthétique. Et ce film en particulier, qui s'ouvre et qui se referme, hein, par Tristan et Isolde de Wagner, encore une fois, c'était du pain béni. Mais encore faut-il bien y arriver, et je trouve qu'ils y sont particulièrement bien arrivés, les créateurs de ce spectacle, notamment le librettiste aussi, Royce Vavreck, qui a aussi, lui, adapté en opéra Breaking the Waves, d'une autre compositrice, Missy Mazzoli.
Et qui était déjà un autre film de Lars von Trier. Absolument. D'ailleurs, on va rentrer dans le détail, effectivement, de ce qu'on voit sur scène, de quelle est cette mise en scène. Mais c'est vrai qu'on vous propose cet opéra Mélancolia. C'est une expérience particulière. On l'a dit, c'est un film à l'origine adapté en opéra qu'on vous propose de regarder sur un écran. Alors, vous, Christophe Candoni, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que pour vous, comme pour Charles, l'adaptation est réussie?
Alors, j'avoue que j'étais très très excité par ce projet d'adaptation de film à l'opéra, parce que évidemment ce film comporte une dimension opératique en s'offrant le luxe d'avoir Wagner en bande originale, et puis parce que il est d'une beauté fascinante, insondable, ce film. En revanche, je suis j'ai été très très déçu, moi, par la proposition, que je trouve trop à la surface du propos du film. Elle est parfaitement fidèle au propos catastrophique, mais aussi à sa construction, puisqu'on retrouve les deux parties correspondantes à chacune des figures féminines, les deux sœurs au cœur du film, fidèle à son atmosphère, effectivement angoissante, étrange, inconfortable. Mais pour autant, je trouve que les moyens et musicaux et théâtraux qui sont mis en place ont beau être, ce que je dirais, efficace au sens bien réglé, bien fait.
C'est bien fait, c'est ça que vous voulez dire. C'est bien fait, mais
je trouve que ça dépasse pas une esthétique un peu trop chic, un peu trop léchée. Voilà, où j'aurais aimé plus d'aspérité à la fois dans le théâtre et dans la musique. Alors, on peut détailler, d'un point de vue de la musique, c'est plutôt l'idée que ces grandes nappes sonores, très étirées, très vacillantes, comme ça, je les trouve, efficaces, d'un point de vue du climat, mais assez impersonnelles, finalement. Tandis que du côté du théâtre, l'esthétique m'a fait penser un petit peu à ce que fait Katie Mitchell au théâtre et à l'opéra, avec cette scénographie très compartimentée, qui a, à mon avis, une certaine habileté pour mettre en valeur le mal-être, l'isolement de ces personnages qui n'arrivent pas à communiquer les uns avec les autres, etc. Mais qui donne finalement pas trop de possibilités théâtrales, je trouve, sur le plateau.
Ok, on va Christophe revenir sur la scène, sur effectivement le théâtre, mais pour répondre d'abord à ce que vient de dire Christophe sur ce compositeur Michael Carlson, Charles Arden, il a déjà composé des musiques de ballet, des œuvres orchestrales, des musiques de chambre et des bandes originales de films. Donc il a peut-être une forme d'habitude. À quoi on assiste là, sa façon, lui il parle de grandes envolées lyriques et aussi des séquences très intimes. Donc est-ce que ça fonctionne pour vous musicalement d'abord?
Oui, c'est bien, on va pas du tout être d'accord parce que moi, vraiment au contraire de ce qui a été dit, j'ai trouvé ce travail musical absolument passionnant, riche, pas du tout lisse et polissé. C'est sans doute aussi lié au fait qu'il a bien travaillé avec la metteuse en scène, qui est une personnalité vraiment très créative de Tchéquie et de Slovaquie, hein, Slava Dobnerova, qui a une grande patte artistique et intense de mouvements chorégraphiés. Ça se rencontre bien sûr, avec ce compositeur qui a fait des ballets passionnants et qui a une esthétique qui est d'une richesse et d'une diversité de moyens vraiment notable. Il utilise à la fois des techniques classiques, des techniques de composition d'opéra qu'on connaît, hein, avec de grandes phases lyriques qui se déploient, mais il sait aussi soit ponctuer, soit même d'une certaine manière brutaliser son écriture avec des effets sonores, acoustiques, avec des effets électroniques.
Il y a de la musique électronique.
Il y a de la musique électronique. Les chanteurs ont un micro, si vous regardez attentivement à la captation. C'est pas pour amplifier leur voix en salle. Bon, on peut pas trop en juger, bien sûr, en regardant une captation vidéo, mais c'est plus pour utiliser certains effets dans la vocalité. Il y a des effets de brutalité. D'ailleurs, c'est un compositeur aussi qui a fait des musiques de jeux vidéo. C'est intéressant parce que ça force aussi à savoir ponctuer d'événements, savoir déployer des ambiances. Et puis, il y a ces moments de musique, qui reviennent régulièrement de musique, enfin quasiment tribale, il n'y a pas d'autre mot, qui viennent comme ça secouer aussi bien ces noces que cet univers. Et en effet, cet univers qui serait sinon trop poli, trop bourgeois, et qui vient comme ça craqueler, qui vient comme ça être secoué, c'est toute l'histoire de ce film.
Donc vous êtes d'accord sur le constat de Christophe sur la scène, peut-être voilà trop compartimentée, un peu trop lisse, un peu trop classique, si je me trompe pas sur ce que vous venez d'expliquer. Mais musicalement, vous trouvez que ça se rééquilibre justement avec Christophe, et vous pouvez me donner votre avis. Effectivement, cette variété musicale, ces sonorités très très différentes.
Moi, j'ai pas trouvé la musique très varié. Je trouve au contraire qu'on a affaire à quelque chose d'un peu de l'ordre d'un sfumato orchestral comme ça, qui est bien sûr mobile mais assez étal et qui à la longue, moi, m'a un peu ennuyé. Les atmosphères sont bien restituées, mais je pense que ça tourne parfois un peu à vide. Par exemple, j'ai l'impression que, et scéniquement et musicalement, on est plus dans un geste d'illustration explicite de ce qui se joue, de ce qui se passe, que d'une évocation poétique, musicale. Et ça, par exemple, ces effets et le côté appuyé de ces effets m'a un petit peu dérangé. Le lyrisme dont parle Charles est évident, il est débordant même, voilà, et c'est très agréable à l'oreille. D'ailleurs, cette musique, elle est en fait de très grande inspiration filmique, mais peut-être plus versant blockbuster qu'autre chose.
Ouais, il a voulu créer effectivement ce paysage sonore envoûtant pour cet opéra. Sur ce qui se passe sur scène à présent, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, Charles Ardenne?
Oui, bah pareil, je suis en désaccord, c'est bien, hein, ça lance le débat, parce que en fait, déjà, si vous arrivez à illustrer ce film, c'est déjà qu'il se passe des choses incroyables, parce que c'est quand même Lars von Trier, c'est pas un blockbuster hollywoodien policé dont on a l'habitude. Rien que illustrer ce drame, ces liens psychologiques entre les personnages, ces profondes terreurs.
Oui, c'est presque plus facile au cinéma que sur une grande scène d'opéra.
Oui, absolument. Et donc, ce qu'on voit là aussi, ce que j'ai trouvé vraiment bien fait, c'est que il y a bien sûr l'univers du film, des évocations, cette grande pelouse centrale au milieu qui évoque voilà ce grand manoir dans lequel a lieu le mariage. Il y a bien sûr les menaces de cette planète qui en plus là sont montrées par vous savez des projections.
Alors comment c'est montré justement? Il y a une sorte de
projection vidéo, de surimposition, voilà. un écran en avant-scène ajouré qui permet comme ça d'avoir cette présence menaçante, bien sûr particulièrement au début et à la fin. À la fin, il y a un geste, c'est une adaptation, mais qui se permet aussi des propositions originales. Pour lui, la planète, en fait, c'est un grand œil. Alors, vous en déduisez...
L'iris voilà, qui absolument. Apparaît sur le...
Vous pouvez en déduire ce que vous en voulez, mais ça fait un effet intéressant, puisque, en fait, la destruction de la Terre par la planète Mélancolia, elle est montrée par un œil, vous savez, qui s'ouvre, une pupille qui se dilate avec une surexposition de lumière. Voilà, c'est... Bien sûr, j'aurais aimé voir ça en salle, voilà. Et je pense que quand on se dit ça, c'est que le challenge est réussi.
Alors justement, sur l'interprétation aussi, parce que l'avantage de pas le voir en salle, c'est qu'on est très près des chanteurs et chanteuses. Ça vous a marqué, vous aussi, Christophe Candoni?
Je trouve effectivement, on a cité Anne-Sophie von Otter dans un rôle secondaire, mais je trouve que les figures féminines de ce spectacle sont plutôt très impressionnantes, et notamment la soprane Lauren Snoffer, qui joue le rôle de Justine, et qui est vraiment animé d'une présence physique très forte et animé aussi par l'écriture vocale qui pour le coup elle révèle vraiment je trouve l'instabilité émotionnelle du personnage, toute sa versatilité aussi c'est intéressant. Et pourtant, alors là, je trouve que d'un point de vue du plateau, la représentation est quand même un petit peu cliché. On a affaire à une très jolie poupée, un peu barrée, comme ça, avec un focus que je trouve un peu étonnant étonnant et redondant sur sa sexualité.
Ça, c'est dans le film.
Oui, c'est dans le film, mais là, c'est montré quand même d'une manière qui, moi, m'a pas beaucoup touché,
dans le film, c'est pire.
Ça a été adouci pour l'opéra.
Il y a plus de densité, on va dire. Là, c'est vraiment une image un peu appuyée, là encore. Voilà. Mais sinon, et la sœur, qui elle a une voix moins, un timbre moins juvénile, quelque chose de plus corsé, et pour le coup, à qui j'attribue, je pense, le plus joli passage du spectacle, en tout cas le plus expressif, c'est ce monologue totalement tétanisé au début de la deuxième partie, qui est le moment que j'ai préféré.
Charles, pour conclure sur les interprètes.
Oui, là aussi, ce qui fait la réussite pour moi de ce projet, c'est aussi lié à la distribution, au casting, aussi bien le choix de ses interprètes, mais avant ça, même le choix des tessitures. Là aussi, c'est la grande tradition de l'opéra, c'est les équilibres qu'on a entre l'héroïne soprano, qui... Katie Mitchell, en effet, c'est une très juste référence, je trouve, à ce rôle comme ça d'une mariée en robe de mariée longtemps qui erre. Bon, ça nous rappelle aussi le répertoire, les Lucia di Lammermoor, des visions de Rusalka aussi, de figurines tragiques.
Et la Mélisande.
La Mélisande par Katie Mitchell, absolument, avec une performance vocale, enfin qui mérite un. Faudrait qu'on fasse les prix d'interprétation là, comme à Cannes, comme l'a eu l'actrice du film. C'est impressionnant tout l'ambitus, toute la diversité, la richesse vocale, l'équilibre aussi avec donc la mezzo et aussi Michael, un baryton qui a une voix magnifique d'ailleurs qui monte un peu en adoucissant vers le ténor. C'est un autre baryténor que Spires dont on parlait tout à l'heure, mais très beau et élégant.
Voilà, belle transition. Mélancolia de Michael Carlsson, adapté du film de Lars von Trier, mise en scène par Slava Daubnerova, enregistré à l'Opéra Royal de Suède en novembre dernier et disponible jusqu'au 29 juin sur la plateforme Arte Concert.
Les midis de culture, Nicolas Herbeau.
Et nous parlons à présent du disque du chanteur lyrique Michael Spires, In the Shadow, dédié à Wagner avec les talents lyriques dirigés par le chef Christophe Rousset. Mein lieber Schwan, donc Lohengrin de Richard Wagner. On parle donc de Wagner, tellement aimé par le chanteur lyrique Michael Spires, qu'il a décidé de lui rendre hommage d'une façon un peu particulière. Wagner, ce génie, ce domaine à part et intimidant, comme le qualifie lui-même le baryton, aurait détesté qu'on éclaire son œuvre avec les influences de ses prédécesseurs, et c'est pourtant tout l'objet de ce disque In the Shadow, dans l'ombre, en bon français. Voici donc les compositeurs à qui Wagner a emprunté Bellini, Berlioz, Méhul, Rossini, Weber. Wagner leur doit des innovation musicale qu'il a su s'accaparer pour bâtir ce qui deviendra peut-être le ténor wagnérien. Et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit dans un instant. Qu'avez-vous pensé d'abord, Christophe Candoni, de ce programme et de sa réalisation dans ce disque?
Je trouve que c'est un disque très réussi, car il confirme que Michael Spires est à la fois un interprète éblouissant, avec une voix très épanouie, des moyens vraiment superlatifs, et aussi un artiste intelligent, dans le sens qui est attentif à l'évolution de sa voix, à ses possibilités, à sa singularité et au sens qu'il peut donner à tout ça. Et là, ici, il construit un récital qui donc se termine par le Lohengrin magnifique qu'on vient d'entendre, et donc trois titres hein, seulement sur les 12 ou 13 du disque en entier, trois titres comme une espèce d'achèvement apothéotique, on va dire, mais effectivement qui retrace aussi tout un parcours au cours duquel il tisse un fil dramaturgique bien réfléchi et surtout un lignage musical étonnant auquel on pense pas nécessairement, un lignage qui fait de Bellini, de Méhul, de Spontini des sources auxquelles le chant wagnérien s'abreuve et se façonne Moi, je trouve ça assez passionnant. Le disque, il est superbe parce que il y a cet interprète qui a autrefois et encore beaucoup joué avec toute la singularité typologique de sa voix, cet ambitus extrêmement ample, voilà, de 2,5 octaves, on dit, ou 3 octaves, je ne sais plus. Enfin, c'est très 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 vaste. Et il a beaucoup joué avec ça, mais là, il le fait pas d'une manière juste phénoménale ou spectaculaire. Il profite de la vastitude de sa voix pour y additionner la vastitude d'un répertoire. En fait, et je trouve que c'est assez passionnant.
Charles Arden, pourquoi est-ce que Wagner est si impressionnant et intimidant, hein ? C'est Michael Spiers qui le dit lui-même.
Pour tout chanteur lyrique, pour toute chanteuse lyrique, Wagner, c'est l'horizon. C'est le point distant vers lequel on va, en fait, parce que il a écrit des rôles, si on parle de ses opéras principaux, hein, il a écrit des rôles d'une telle ampleur, sur tous les plans, hein, d'une telle ampleur dans ce que ça demande de technique, dans ce que ça demande de puissance, dans ce que ça demande d'endurance, dans ce que ça demande d'expressivité, dans ce que ça demande aussi de déploiement d'ambitus, hein, c'est-à-dire toute la dimension de haut en bas de la voix, que bah, forcément, voilà, pour toute chanteuse et tout chanteur lyrique, il y a Wagner à l'horizon. Alors après, bah voilà, de deux ou de trois choses l'une, soit vous vous dites bah j'y vais, j'y fonce, et beaucoup se sont brûlés les ailes en y allant trop vite. Même la Callas, qui avait commencé dans un parcours assez hallucinant par Wagner, elle le faisait déjà magnifiquement, c'était une aberration, parce que c'est une interprète sublime qui était capable de tout et des choses impossibles. Mais même elle, ça lui a joué des tours plus tard dans l'évolution de sa voix, c'est pour dire. Donc soit vous y allez trop vite, soit vous prenez votre temps et vous y allez pas à pas, soit bah, vous finissez par y renoncer. Mais il y a vraiment cette dimension de quête.
Mais ça veut dire justement que Michael Spiers, il a raison de commencer par les prédécesseurs, oui. de débuter chronologiquement comme ça, de monter lentement pour arriver ensuite à Wagner comme il le fait dans cet album.
Absolument. Il y a une logique dans cet art qu'est l'opéra. Il y a une logique qui est à la fois historique et technique. Les opéras ont été interprétés, voilà, par des chanteurs qui avaient des profs de chant. Il y a une évolution de la technique vocale qui, en fait, a suivi le répertoire. Et d'ailleurs, on l'oublie trop souvent, mais c'est toujours donnant-donnant. Le compositeur compose pour un interprète. Selon ce que l'interprète arrive à faire de mieux en mieux, bah, ça fait évoluer aussi l'esthétique des artistes. Et c'est ça qui est passionnant dans ce disque, justement, c'est que ça montre à la fois un parcours esthétique, l'évolution de l'art par différents compositeurs au fil des décennies, hein, de ce 19e, mais ça montre aussi l'évolution d'une voix, l'évolution de la voix de Michael Spiers, qui en plus, voilà, a un parcours, bah, là encore, je ne veux pas abuser des superlatifs, mais un parcours exceptionnel, qui est parti du baroque pour avancer lui aussi chronologiquement là vers tout ce répertoire wagnérien qui s'approprie de plus en plus. Il a débuté Lohengrin le mois dernier à l'Opéra du Rhin, Strasbourg, hein. Voilà, absolument. Et on le voit comme ça faire cette progression avec des moyens superlatifs et en montrant en plus d'où ça vient et où ça va.
On va parler des autres compositeurs, Christophe Candonis, sur cette voix, la voix donc de ce chanteur lyrique. Qu'est-ce qu'elle a de... Pourquoi on dit que c'est un phénomène vocal?
Bah déjà parce que donc on a dit qu'elle était très très large, mais aussi parce que elle est d'une couleur extrêmement claire et rayonnante, on pourrait dire, ce qui apporte beaucoup d'ailleurs au Lohengrin qu'on a entendu, parce que Michael Spiers du coup se distingue. On a de très très beaux Lohengrin en tête, d'un côté une couleur très saturnienne d'un Jonas Kaufmann par exemple, et puis une dimension un peu plus très belle, hein, mais un peu plus châtrée ou éthéré de Klaus Florian Vogt, par exemple, ben lui, il se situe dans encore une autre dimension qui va être celle de l'irradiance divine, quoi. Et son Lohengrin, c'est exactement ça.
I
c'est toujours délicat hein, de couper comme ça un chanteur lyrique. Gönnemin, Ein Wort der Liebe, Heinrich Marschner, Charles Arden. Qu'est-ce que ce compositeur a apporté à Wagner?
Beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est un exemple assez emblématique, je trouve. D'ailleurs, c'est le compositeur sur cet album qui est juste avant les trois airs wagnériens. Il lui a apporté, vous entendez, cette ligne, cette continuité. Et puis, si on veut être un peu technique, il y a vraiment les désinences wagnériennes. Vous savez, Wagner, c'est ces longues phrases qui redescendent tout doucement d'un demi-ton ou d'un ton à la fin et puis qui s'enchaînent. Et qui, voilà, cette continuité, ce souffle, ce fil, c'est magnifique. Et voilà, c'est à l'image de ce projet qui nous montre aussi bien ce que Wagner doit à des Beethoven, à des Rossini. On s'étonne. Ah oui, il doit aussi à l'opéra italien. Wagner qui disait que non, j'ai fait un art national, j'ai fait un art universel. Il doit aussi à des compositeurs moins connus comme Spontini, Méhul et puis Marschner.
Christophe Candoni, pour conclure, il y a le concept de ce disque, effectivement, on vient d'en parler, mais il y a aussi ce qu'on en fait artistiquement. Est-ce que c'est réussi même musicalement dans la direction musicale, l'accompagnement?
Oui, alors c'est pas forcément une évidence que Rousset dirige ce type de répertoire.
Christophe Rousset, qui est le directeur musical et
en revanche, il le fait très bien avec ce qu'il faut de couleurs, d'élan. Je trouve que c'est parfois un petit peu mince dans le sens où ça manque un petit peu de corps, on va dire. Mais c'est néanmoins un très beau résultat. Et puis je pense que c'est en totale adéquation avec le projet du chanteur qui lui va débarrasser, on va dire, Wagner et tous les compositeurs dont on a parlé, d'une espèce de prépondérance comme ça, un peu arrogante, et au contraire, lui donner beaucoup de suavité, c'est ce qu'on vient d'entendre, et c'est ça qui est bouleversant. Ça écarte aussi un certain nombre de clichés sur le chant wagnérien, qui fait qu'on le réentend d'une manière toute nouvelle.
Charles,
complètement. Wagner, c'est pas que les charges des Valkyries et les Heutoho. Il y a cette subtilité, cette beauté, cette douceur et le fait de jouer donc avec cet ensemble, c'est-à-dire sur instruments d'époque, c'est à l'image de ce projet, à la fois authentique et passionnément lyrique.
Ça s'appelle In the Shadow, dans l'ombre donc de ces compositeurs wagnériens. Michael Spires, c'est le chanteur lyrique qui a mené ce projet de disque disponible chez Warner Classic et Rato. Et puis sachez que Michael Spires sera à l'affiche de la Vestal. Ce sera du 15 juin au 11 juillet prochain à l'Opéra Bastille. On vous met toutes les références sur le site de France Culture, à la page de l'émission. Merci beaucoup Charles Arden. On vous lit donc sur Olyrics, le portail francophone, et Christophe Candoni, on vous lit sur Scène Web. Merci à tous les deux, Table Critique et les autres. On réécoute sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.